Test, test, test. La rends-tu?
Non.
Non? Ça va venir, ça va venir. Test 1, 2, test 1, 2. Test 1, 2. Hop, 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 hop. Attends, hein? Ça s'en vient. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être là, puis j'aimerais ça vous parler de deux sujets. Une méthode d'évangélisation qu'on utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est l'Association des fermiers chrétiens. Je veux vous en parler rapidement, mais valoriser aussi la chose pour que vous puissiez avoir ça à cœur, peut-être pour avoir une implication occasionnellement, comme bénévole, pour aider, participer. J'ai fait encore d'évangélisation de toutes sortes de façons, puis on pourrait dire presque tous les moyens sont bons pour faire d'évangélisation. Mais il y a des moyens peut-être qui sont peut-être plus efficaces que d'autres, ou il y a des moyens peut-être qui sont plus accessibles pour nous autres. L'Association des fermiers chrétiens est un moyen extrêmement efficace. Je vous fais une présentation rapide. Peut-être on peut commencer avec ça. Je vais vous faire un cadeau avant de commencer, tous et chacun, puis ensuite je vous fais la présentation, d'accord? Mon épouse va vous présenter un cadeau. J'espère que vous allez l'utiliser. Ce sont toutes sortes de formes d'objets. Ça, c'est un des objets qu'on utilise avec cinq couleurs qui sont dessus pour présenter le message de l'Évangile. C'est bon. Super. On espère que tout le monde va s'en servir. L'Association des fermiers chrétiens et des fermiers chrétiens du Canada, présentation des cinq couleurs. Il y a un site, si jamais les gens voudraient aller voir qu'est-ce que ça concerne. Puis il y a toute une formation qui est maintenant rendue sur le site, toutes sortes d'informations. Puis, hop, c'est moi qui vais l'avancer, c'est vrai. Donc, on va s'en servir. Hein. Ça marche-tu, tu penses? Où je le roule? Comme ça? Comme ça? Là-bas. Je l'ai-tu fermé? Je pense que je l'ai fermé. Ah, il vibre, c'est bon signe. Ah, c'est bon. Je vous fais un peu l'historique de l'Association des fermiers chrétiens. Très, très brièvement, en premier, ça vient des États-Unis. C'est des fermiers chrétiens, des fermiers qui étaient croyants, puis ils allaient dans les grosses expositions agricoles. Puis aux États-Unis, c'est immense, ces expositions agricoles. Ils osent des terres, le cultivateur, à la grandeur. Puis il y a toutes sortes d'activités, des tirs de tracteurs, de chevaux, toutes sortes de kiosques aussi qui exposent, toutes sortes de choses, des moteurs, etc. Puis les fermiers chrétiens qui étaient là, ils disaient, ça serait l'occasion de pouvoir présenter l'Évangile rêvé. Il y a des foules de monde, les gens sont là, festifs. Fait qu'ils ont créé un kiosque avec des bâtons. Le premier outil qu'ils avaient, c'est un bâton de marche avec cinq couleurs dessus. Puis ils invitaient les gens à venir au kiosque, ils leur donnaient le bâton de marche, puis ils leur présentaient le message d'Évangile avec les cinq couleurs. Et ça s'est répandu un peu partout dans les expositions. Ils ont rajouté des objets au bâton de marche. C'était le premier, le bâton de marche. Ils ont rajouté des objets, petits et grands, puis ils ont collé tout le temps les cinq couleurs sur les objets. Puis ça s'est répandu un peu partout aux États-Unis. Et un jour, au Canada, il y a un fermier, vraiment, qui faisait de l'évangélisation, puis il était faire un tour dans un kiosque comme ça, dans les Maine. Puis quand il était là, quand il est revenu de là, il dit, j'ai annoncé dans un fin de semaine plus de fois le message de l'Évangile que dans toute ma vie chrétienne. Fait que là, il côtoyait un chrétien qui était peut-être Sylvain Couture, que vous connaissez, qui faisait de l'évangélisation au Québec. Il l'a invité à venir chez eux, puis il a dit, j'aimerais ça que tu viennes avec moi dans un événement, j'aimerais ça que tu viennes connaître cet événement-là pour l'évangélisation. Fait qu'il l'a invité à aller faire un tour. Quand il est revenu, il était super emballé, il était très surpris, très étonné. Puis à un moment donné, il dit, ça ne tenterait pas d'avoir ça au Québec, parce que au Québec, c'est impossible, tout est en anglais, tout français. Puis il dit, on va t'aider, puis on va faire la traduction de tout le matériel, puis tu vas être responsable au Québec de répandre ça. Fait que ça l'a parti, ça a été répandu, ça a été traduit et répandu au Québec. Ça s'est répandu partout au Québec. Et là, présentement, ça marche encore. Fait que je veux vous en parler que ça puisse continuer à marcher encore. C'est un peu ça qui est arrivé. Fait derrière, c'est supposé marcher. Là. Mais ça ne marche pas tout le temps. Sinon, on va te le faire avancer, toi. Les prérequis, bien, tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'être un fermier. Les premiers étaient des fermiers, mais si vous êtes fermier, vous pouvez venir, là, pas de problème. Moi, je ne suis pas fermier, puis ça fait déjà des nombreuses années que je suis là-dedans, je suis impliqué là-dedans. C'est n'importe qui peut s'impliquer pour être bénévole. Tout ce que ça prend un chrétien né de nouveau, puis un chrétien qui fréquente une église ou une assemblée chrétienne quelconque, fidèle, pour être capable de s'associer avec ça, pour participer à ces événements-là. Deux textes, pour moi, qui sont très lourds dans mon cœur et qui me parlent beaucoup pour parler d'évangélisation, et entre autres ici avec les fermiers chrétiens. Et un, entre autres, c'est celui-là, vous connaissez bien sûrement. Comment donc aimeront-ils celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils dans celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est sur notre bande, nous autres, les croyants. Si on veut que les gens se convertissent, il faut parler du message. Il faut le dire, le message. Les gens ne peuvent pas se convertir miraculeusement. C'est pas de même que Dieu veut que ça marche. Il veut que ça passe par le message d'Évangile. Puis le message d'Évangile, il veut que ça passe par ses croyants. Ses enfants, même si on est imparfait. Mais c'est le moyen principal que Dieu a choisi, puis qu'il veut choisir encore. Un autre texte pour moi aussi qui me tient beaucoup à cœur, ça c'est comme l'autre côté de la médaille. Le côté à nous autres, les croyants comme responsabilité, puis le côté des non-croyants. Puis c'est un texte du père à Jean-Baptiste, dans tout son discours qu'il a fait, quand il a eu son enfant, puis que la langue s'est déluée, puis il a pu... parler, s'exprimer, il a fait comme un genre de cantique dedans. Et dedans, il y a une parole qui mentionne ceci. En parlant de la lumière, pour éclairer, pour sauver, il dit, « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. » Pour éclairer ceux qui n'ont pas l'Évangile. Quand on a l'Évangile en nous, quand on est converti, on est la lumière, on est dans la lumière. Mais ceux qui n'ont pas l'Évangile, ils sont dans les ténèbres. Mais le texte est encore plus pesant. Parce qu'il mentionne qu'ils sont assis dans les ténèbres. Un peu comme s'ils seraient résignés dans les ténèbres. Résignés à leur vie, qu'ils voient, qu'ils tournent sans arrêt, sont résignés à ce style de vie-là qu'ils ont tous et chacun. Mais c'est à nous d'aller faire de la lumière pour eux, pour leur donner un espoir à quelque part. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Puis il ne faut jamais, jamais oublier ça, l'autre côté de la médaille. La situation des non-croyants. Et parfois, il y a des gens qui ont été tellement heureux, mais aussi des gens qui ont l'air tellement malheureux. Mais s'ils n'ont pas l'Évangile, la fin ne sera pas belle pour n'importe qui. On continue. La vision de la FCC. Notre vision est de former, équiper les croyants, les chrétiens, à travers un district local pour partager l'Évangile dans des lieux publics d'un océan à l'autre, c'est-à-dire de Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, aller jusqu'à Vancouver. Ça va? C'est ça, la mission des fermiers chrétiens. Qu'est-ce que ça prend? Bien, pour être bref, là, c'est très, très, très court. Ça prend un événement qui arrive, quelconque. Salon de la santé et du bien-être, une exposition, un rodéo, des choses comme ça. On demande la permission d'avoir un kiosque dans ces événements-là. Et très souvent, on a la permission de pouvoir être là. Ça prend un kiosque. Ça prend deux leçons d'objets qu'on utilise pour le message d'Évangile. Et ça prend des bénévoles. En gros, c'est ça que ça prend. Et on présente l'Évangile. Une table des fermiers chrétiens, c'est à peu près ça que ça ressemble. C'est assez l'abondance. T'sais. Toutes sortes d'objets. Sur tous les objets, les cinq couleurs sont apposées. Ils vendent même un petit tape, collant, là, puis il y a les cinq couleurs dessus. On coupe juste un morceau, puis on le colle dessus, des stylos, des choses de même. C'est tout préfabriqué. Fait qu'on donne des corvées parfois, puis on colle des choses. Des fois, c'est des petites billes qu'on enfile dans des colliers, dans des bracelets. Puis on met les cinq couleurs sur tous les objets. Et comme vous pouvez remarquer, ce qui attire les gens, bien, c'est le fait que c'est gratuit. Ça attire les gens, puis après ça, nous autres, on peut enchaîner avec le reste. Voilà un kiosque, et celui-là, c'était, je pense, le Salon de la santé et du bien-être, je crois, à Robertval, si je ne me trompe pas. Et là, on a des gens qui participaient, qui viennent au kiosque, puis qui entendent parler du message d'Évangile. On a des bénévoles qui jasent, discutent avec les gens pour leur présenter l'Évangile. Et au Salon de santé et spiritualité, il y en a un ici à Robertval, puis il y en a un aussi à Chicoutimi. À Chicoutimi, c'est un peu plus gros, mais les gens qui vont là, c'est des gens qui cherchent. Il y a toutes sortes de kiosques élevés, bizarres, mais c'est pas grave. Les gens viennent là, ils cherchent, puis ils finissent par arriver à notre kiosque. Puis les gens qui s'occupent des kiosques un peu élevés et bizarres, finissent par venir à notre kiosque. Et on peut leur parler de l'Évangile. Et ça, c'est au niveau public, ça, c'était justement à Chambord, le rodéo de Chambord. Je vous en parle un petit peu à la fin. On n'a pas pu y retourner encore cette année, mais de plus en plus, il y a du monde qui va là. Hein. L'année passée, l'organisateur, il a parlé de 40 000 personnes qui vont là. Mais on n'a pas été capable d'aller là, pas assez de bénévoles. Cette année, je voulais vraiment qu'on puisse aller. Je n'ai pas pu. L'Association des fermiers chrétiens, ça peut faire peur. Parce que oui, c'est de l'évangélisation de masse. Quand on dit ça, d'évangélisation de masse, je sais que ça a tendance à faire peur aux croyants. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas réagir d'une façon mauvaise. C'est juste que c'est de l'évangélisation qu'on fait en gros. Mais ça n'a pas raison de faire peur. Bien au contraire, c'est une occasion en or, c'est un privilège qu'on a de pouvoir être avec un kiosque, de présenter l'Évangile avec des leçons d'objets de façon consécutive, à répétition, rencontrer abondamment des gens. C'est un privilège énorme. Peut-être qu'un jour, on n'aura pas toujours ce privilège-là, mais on peut le faire. Puis moi, je souhaite qu'on puisse le faire encore et je prie pour qu'on puisse le faire à plus d'endroits en plus de cela. Ce sont des rendez-vous divins. C'est l'œuvre de Dieu qui est en action. Je ne le ferai pas, mais on pourrait raconter un paquet de témoignages que moi j'ai vus de moi-même, que moi j'ai vus avec d'autres personnes, que j'ai entendu des gens qui ont vécu des événements, des choses avec les gens extraordinaires dans ces kiosques-là, ces tables-là, en parlant du message de l'Évangile. Rencontrer des gens suicidaires, des gens malades, des gens qui leur teint a été tiré, ils étaient supposés être morts au mois de mai, mais ils étaient rendus au mois de juillet, puis ils disent, moi, j'étais pas supposé d'être vivant, mais ils disent, pas ici, t'es à la table pour rien, c'est parce que vous devez entendre le message de l'Évangile. Des jeunes hommes, des jeunes filles, des homosexuels, des transgenres, toutes sortes de catégories, des gens qui viennent là, ils n'ont jamais, jamais entendu parler du message de l'Évangile. Puis nous, on est là, puis on peut leur présenter. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes très âgées qui peuvent venir au kiosque, qui sont à la recherche. Ils vivent leurs ténèbres à eux, puis nous, on arrive là avec une lueur d'espoir, avec le message de l'Évangile, accessible à tout le monde. C'est extraordinaire. Moi, je suis encore emballé après toutes ces années. Deux leçons d'objet? Bien, les deux leçons d'objet, c'est ceci. Vous avez vu tantôt une pancarte gratis? C'est ça qui attire les gens. Quand on a un kiosque, quand on a une tente, soit sur la table ou sous le kiosque autour, c'est écrit « gratuit ». Je pense dans toute forme d'exposition, il n'y a aucun kiosque qui donne des choses. Tout le monde vend quelque chose. Nous, la plupart du temps, on est les seuls qui donnons des choses. Fait que les gens s'approchent avec ça, et à partir de là, on leur explique pourquoi le cadeau est gratuit. Et ensuite, on embarque avec les cinq couleurs. Puis les cinq couleurs, ce n'est pas d'hier, ça existe. C'est très vieux, c'est le message évangélique avec les cinq couleurs. Ça existait à l'époque de Charles Spurgeon en 1866. Peut-être quand on s'est converti, on entendait parler les plus vieux là, du petit livre d'or qu'on appelait. Là. C'est les cinq couleurs qu'on avait dedans. Ça a été réutilisé par les fermiers chrétiens, ces cinq couleurs-là, pour servir une leçon d'objet, une façon visuelle, que les gens puissent entendre le message d'Évangile. Toujours se rappeler que le Seigneur Jésus est un spécialiste des leçons d'objet. Hein. Dans la Bible, on appelle ça des paraboles, mais Jésus avait le don d'être à quelque part, d'utiliser quelque chose-là, ou un événement, une circonstance, ou d'inventer une histoire pour présenter une vérité qu'il voulait présenter en rapport avec l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est ce que l'on fait. Les cinq couleurs, je vous fais un squelette. Les squelettes, c'est jaune-noir, la couleur noire, rouge, blanc ou vert. Bref, c'est le but. Puis, il m'est arrivé, il y a des gens très, très, très pressés, j'aurais présenté juste ça. Alors, je suis pressé, m'en revenez tantôt. Et quand ils sont venus, on leur a présenté plus en détail. Mais le but, c'est d'aller au ciel. L'obstacle, ce qui nous empêche d'aller au ciel. La solution, Jésus. Le résultat, si on accepte Jésus. Et la croissance en attendant d'aller au ciel, la croissance du croyant. Je vous fais ça très brièvement, là, mais je vais revenir un peu plus tard. Une chose qui est très importante quand on travaille avec les fermiers chrétiens, puis moi je l'ai vu, je l'ai constaté, c'est très, très, très formateur pour les croyants d'abord. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je n'ai jamais vu un moyen d'évangéliser, de former des gens pour aller évangéliser. Vous savez, c'est très difficile, mais ce n'est pas donné à tout le monde de partir et d'aller faire du porte-à-porte. Là, toc, 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 toc. Puis là, on vient nerveux, puis on vient inquiète, puis en sueur, puis en ci, puis en ça. Puis des fois, ça commence à la maison chez nous. Là. On embarque dans les chars, puis là, ça nous trotte dans la tête, puis là, on s'en va au local, puis on doit. Mais là, c'est pas ça. Là, on s'en va au kiosque. Là, les gens, eux, embarquent, sortent de leur maison, ils embarquent dans leur char, ils viennent à un kiosque, à l'exposition, ils se présentent à notre kiosque, puis nous, on embarque tout de suite avec l'Évangile. Hey, on a des étapes de franchi, là. Puis c'est pas moi qui les ai franchis, c'est eux autres. Puis très souvent, quand ils arrivent au kiosque, ils ont une sourire fendue jusqu'aux oreilles, curieux, puis ils ouvert, puis ben voyons donc. Il y a une sœur, cet été, qui nous a dit, elle dit, René, je n'ai jamais annoncé l'Évangile d'une façon si décontractée que ça. C'est la première fois que je vis ça. Elle dit, oui, c'est comme ça. Puis je vous dis tout de suite, les gens qui ne veulent rien savoir, c'est faible pourcentage. Qui vit un peu fâché, vu d'abord, on ne veut rien savoir, c'est faible pourcentage. On va aussi loin que les gens nous permettent d'aller dans la conversation. Et si on réussit à semer, c'est déjà beaucoup. Des chiffres, ben, je pourrais vous en dire des chiffres énormes. Mais je vous donne un exemple. Dans tout le Canada, c'est au Québec que ça marchait encore le plus avant la pandémie et ça marche encore le plus. Dans le Québec, avant la pandémie, pendant une année, on répandait des objets, environ 60 000 objets par année dans le Québec. Dans les Maritimes, ça vient de commencer, puis ça commence un peu. Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, ça commence un peu. Ils commencent à saisir, à comprendre cette leçon d'objet-là, cet outil-là, puis ils commencent à l'utiliser. Mais au Québec, c'est vraiment, au Québec, ça marche le plus. Puis je pourrais vous donner bien d'autres chiffres, là, mais ça serait trop long. Les églises participantes aussi, quand on a commencé, moi j'étais en Mauricie, quand on a commencé à participer à ça, après une année, on a demandé deux permissions spéciales. Et une permission, on a demandé, si les églises participantes avec les fermiers chrétiens, est-ce qu'on pourrait utiliser cet outil-là, ce moyen-là, une table avec les objets tous, dans un autre événement qu'un gros événement, une exposition tu vois, un rodéo. On peut-tu l'utiliser dans un petit événement? Puis on pose la question, quel genre d'événement? Ben, mettons, à mon église, on fait un baptême, on pourrait avoir une table derrière, puis avoir les objets. Quand les gens sont invités, ils viennent, puis on peut. Si on invite une salle publique, un groupe de musique qui vient, dans le hall d'entrée, on pourrait avoir une table des fermiers chrétiens. Quand les gens sortent, on leur donne un objet avec un petit sac ou quelque chose à main. Pourrais-tu faire ça? La deuxième demande, c'était mon confrère de travail qui était avec moi, puis lui, il travaillait au niveau du cégep et des universités. Jocelyn Aubut, je ne sais pas si ça te dit quelque chose un peu. Puis Jocelyn a demandé la permission. Il dit, moi, tu peux-tu l'utiliser au cégep, à l'université, mais pas avec la grosse pancarte fermier chrétien. C'est pas trop vendeur dans les écoles, ça. Mais il dit, écoute, c'est affiché sur la table, il n'y a pas de problème, mais sans avoir la grosse pancarte, tu pourrais-tu avoir une table comme ça, de temps en temps, si j'ai la permission, au cégep ou à l'université? Puis dans les deux cas, ils ont dit oui. Fait qu'on peut utiliser ça dans des petits événements ou autres que dans une exposition quelconque. Moi, je quand j'ai vu ça et qu'on a eu la permission, là, wow, là, c'est parti, là. On a trouvé des événements. Le but aussi, c'est qu'on veut rebâtir la FCC ici et ailleurs. Vous êtes au courant, vous savez que la pandémie a brisé beaucoup de choses. Parmi les croyants, parmi les églises, mais aussi dans l'évangélisation, et les fermiers chrétiens n'ont pas fait exception à la règle. Mais on voudrait le rebâtir dans la région. Ça fait 2 ans, moi, que je veux qu'on y aille au rodéo à Chambord, puis on n'est pas capable, on n'a pas assez de bénévoles. Je prie, je suis ici, puis je vais visiter aussi. Oui?
Ça en prend combien de bénévoles pour aller faire la fin de semaine à Chambord?
Bien, tout dépend. La fin de semaine, c'est 4 jours, trois chiffres de travail. Ça en prend une quinzaine de personnes. T'sais. À moi, il y a des fous un peu comme moi qui sont prêts à être là 4 jours de temps, là, mais il n'y en a pas beaucoup de ça. mais je comprends que c'est dur. Il y a des personnes. Robert, il est déjà venu participer. Puis Robert, écoute, on fait une demi-journée, une journée, c'est top. Là. Richard, c'est ça? Richard, c'est excellent, on est au haut de bout, puis je peux comprendre ça aussi, là. Mais ça prend plusieurs bénévoles pour faire un événement de 4 jours. Quand le salon de santé spirituelle, c'est 2 jours, c'est beaucoup moins lourd, mais quand même. Oui?
C'est combien de bénévoles à la fois à la table?
Normalement, ça dépend. Il y a des kiosques, si on a 2 tables, bien là, 4 à 6. Si on a une table, 2, 4.
Hein? Au moins 2 par table,
tu sais. Là, c'est des détails. Quand on arrive avec la formation, je suis vraiment intéressé. Ah, écoute, ça, c'est une bonne question. Puis retenez ça. Puis si vous avez d'autres questions encore plus, c'est beau. Mais c'est bon. Mais on voudrait ça rebâtir dans la région, repartir. Parce qu'avant la pandémie, il y a des églises qui avaient commencé à allumer, puis commençaient à faire des petits événements, puis ils nous demandaient d'être là. Puis moi, à Mauricie, c'était comme ça aussi que quand ça passait. Puis entre autres, je vous donne une nouvelle rapport avec ça. Priez aussi pour la région de Québec. Parce que la région de Québec, le chapitre qui était là, c'était plusieurs églises, c'est tombé. Le comité d'organisation est tombé, il ne reste presque plus personne, puis ils veulent le rebâtir. Tu sais, quand j'ai été au salon au Forum des évangélistes, il y a deux jeunes hommes qui sont venus, un jeune homme, une personne de plus vieux, puis ils sont venus me voir, j'avais une table d'exposition, puis ils disent, on peut-tu se mettre sur le coin de la table? Ils disent, oh, oui, mettez-vous sur le coin, puis là, ils sont présentés, ils disent, on est à Québec, René, puis c'est tombé, puis on aimerait ça repartir ça. Ben, c'est vrai, on va vous aider à repartir ça. Tu sais. Puis là, il y a un petit groupe d'une église qui est venu cet été à l'expo à Chicoutimi. Ils sont venus faire un tour avec un pasteur. Ils ne connaissaient pas ça. Ils sont venus faire un tour, après un van. Ils sont venus jusqu'à l'exposition, spécialement pour ça. Moi, j'ai été avec eux autres derrière la tente. J'ai donné une formation rapide pour qu'ils comprennent comment ça se passait. On est venus en avant. J'ai éclairé un peu du monde. Allez vous promener. Les autres, ils ont rentré dans le kiosque et ont commencé à le pratiquer. T'sais. Quand ils ont sorti de là, ils ont dit waouh, c'est fort, ouais, ça à Québec, René. Là. Les autres, ils ont dit si ça part, on est participants, ceux. Ben, ils disent écoute, il dit, on va vous aider à repartir ça. Mais ils ont compris, puis ils ont saisi. T'sais. Puis ils ont reparti dans le van, puis parti. Puis il y avait une jeune femme qui était là. Elle a dit, René, je vais être honnête avec toi. Dit, quand je m'ai amené à la van, le voyage était long, puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? T'sais, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Quelle patente que je m'embarque encore? T'sais. Puis elle a dit, au fur et à mesure que tu parlais en arrière de la tente, on aurait dit qu'en dedans, là, ça. Ça désamorçait. Puis là, quand on était en avant, puis tu dis, tu nous as pas obligé à rien, on était en regard de faire ça, on écoutait les autres, puis à un moment donné, on a embarqué. Wow! Ben, je vais m'annoncer l'évangile comme ça. T'sais. Mais je vous dis, c'est très, très formateur, puis c'est surprenant. Rebâtir ici et ailleurs. C'est beau? Je vous reviens un peu tantôt à la fin avec ça. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler, de façon plus précise, ben, on peut l'avancer, tiens. Je vais vous parler du message de l'évangile. Pas nécessairement évangéliser, mais j'aimerais ça vous parler du message de l'Évangile. Des points, on pourrait en parler sûrement grandement et largement. J'aimerais ça vous valoriser un peu la chose. Vous savez, on entend toutes sortes de nouvelles à la radio, puis moi j'aime ça écouter ces nouvelles-là. Ma femme, elle aime beaucoup moins ça. Tu sais, on entend les nouvelles là, avec Israël, là, puis toutes les guerres qui se passent à brasse. Tu sais, Ukraine, la Russie, les Arabes autour, ça brasse énormément. Moi j'aime ça écouter ça, même si c'est dramatique parfois, puis c'est pas toujours un côté plaisant. Mais moi, j'aime ça écouter ça parce que ça me rappelle un écho biblique. Pour ne pas dire plusieurs échos bibliques, des promesses, des vérités et des prophéties bibliques. Vous savez, avec les moyens qu'on a de communication, aujourd'hui, c'est très rapide. Puis moi, ce que je souhaite, ce que je veux, c'est que ce qu'elle fait écho jusqu'ici, puis que des personnes m'en parlent, pour que ça ouvre des portes vers l'Évangile. Puis quand je regarde ces événements-là qui sont là-bas, je me dis, Seigneur, est-ce que l'Évangile est véhiculé là-bas? Que ce soit en Israël, que ce soit la bande de Gaza, que ce soit en Arabe, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Seigneur, si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas entendu l'Évangile, la fin, c'est la même. Là. Peu importe. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un du monde, Seigneur, qui annonce l'Évangile là-bas? Je ne suis pas sans me poser la question. Je me dis, c'est Dieu là-bas. Là. C'est dangereux. Qui, comment, de quelle manière, tu sais pas, ils sont craqués à l'os, eux autres. Ça fait des générations qui saillissent. Ils sont en guerre. Là, l'Évangile à travers ça. Ben, le Seigneur dit, minimum, je voudrais que ça se fasse écho jusqu'à nous autres sites, que ça puisse ouvrir des portes avec nous autres, avec ces sujets-là, pour qu'on puisse ouvrir vers l'Évangile. Vous savez, c'est, j'aime ça utiliser cette leçon d'objet-là, puis je fais plusieurs questions. Ici, on n'a pas d'autobus de ville, ça, tu penses, hein, non? Mais on a à Chicoutimi, on en avait dans mon coin aussi. Mais si vous êtes dans un lieu d'attente à quelque part, docteur, avocat, peu importe, là, une clinique médicale, visuelle, dentiste ou à l'hôpital, vous êtes en salle d'attente, puis là, vous avez X temps à attendre, pas beaucoup de temps. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un assis aux côtés de vous autres, puis à un moment donné, en jasant, en discutant, il vous dit « Ah, t'es chrétien, toi? » Ben, je dis, oui, je suis chrétien, OK. Tu pourrais-tu me parler? J'ai déjà entendu parler, mais c'est pas clair. Tu peux-tu me parler du message de l'Évangile? Alors, ben, 5 minutes. 10 minutes? Vous diriez quoi?
Une demi-heure,
voilà. Non. Vous n'avez pas ce temps-là. Qu'est-ce que vous diriez? Puis, tu sais, toutes sortes de réponses. Moi, je suis dans le bateau, là. Puis, les gens, ils s'arrivent, ils sont spontanés, t'es nerveux. T'es... faut t'accepter le Seigneur. OK, c'est bon. mettons, c'est une première, tu sais, mais c'est pas le message de l'Évangile, là, tu sais, là. Faut t'aller le Seigneur de ta vie. C'est bon, là. Ça commence, mais c'est pas ça le message d'Évangile. C'est important de comprendre le message d'Évangile. C'est important de comprendre le casse-tête du message d'Évangile, la structure du message d'Évangile pour être capable de présenter aux gens. Parce que si c'est pas clair pour nous autres, ça ira pas bien. Pour que la personne puisse comprendre, puis saisir comme nous autres. J'aimerais ça aussi. Attendez un petit peu. Je vais présenter ça comme ça. 3. Il La leçon d'objet, les quelqu'un de la question, accepter le Seigneur, croit. On a aussi... Il faut être honnête aussi et reconnaître, puis moi je fais partie de la sauce. Là. On est influençable. Même pour la question du message de l'Évangile. On est influençable sur notre sanctification. On vient du monde, on est influencé par le monde, puis le Seigneur nous transforme au fur et à mesure. On s'aperçoit parfois, même après des années, on dit attends, j'ai encore ça dans ma vie. Toi. Bon, ben Seigneur, je traite ça avec toi, puis il faut que ça sorte de ma vie. Il faut que les choses de toi rentrent dans ma vie. T'sais. Mais en rapport avec le message de l'Évangile, c'est un peu pareil. Puis la Bible nous parle de cela. Puis ce verset-là, on peut l'appliquer avec le message évangélique dans notre vie. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Si on prend ça, on applique ça avec le message d'évangile, c'est aussi applicable. Je vais essayer de prendre mes lunettes, ils ne sont pas trop loin. J'aimerais ça vous lire rapidement certains textes. Je ne vais pas les afficher et toutes les lire au complet, mais je vous fais plus pour un aide-mémoire. Dans Jacques 1, 22, il dira « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En rapport avec le message de l'Évangile, c'est aussi applicable. Il dira ailleurs dans Galates 1, 6, 7 « Je m'étonne de ce que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. » Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser le message, l'Évangile de Christ. 2 Corinthiens 11, 4, il dira ceci, « Car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Il dira aussi à un autre endroit, dans 2 Pierre 1, 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il voit, ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » La plupart des commentateurs, vous pourrez retourner voir le texte, la plupart des commentateurs prennent ce texte-là et l'appliquent à un croyant qui s'est éloigné. Ils l'appliquent vraiment là. Est-ce que c'est possible qu'un croyant, un vrai croyant, vraiment converti, pour X raison, il s'éloigne du Seigneur puis il oublie la purification de ses anciens péchés. Pas ses futurs péchés parce qu'il n'y est plus, là, mais il oublie ses anciens péchés. Ça, c'est parce qu'il commence à être loin. Donc, ça se pourrait que si cette personne-là ait l'occasion de présenter l'Évangile, qui présente l'Évangile assez tout croche. Puis moi, j'en ai vu souvent. Puis donc, dans mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui est dans une situation comme cela. Ça se peut qu'il soit converti. Il était des années à fréquenter les églises. Puis il ne fréquente plus les églises. Puis là, je parle avec lui, je sonde un peu. Enfin, quelques années, je sonde tranquillement au fur et à mesure, je l'ai à cœur. Puis là, il y a un confrère de travail qu'on a, lui, il l'a à cœur. Puis lui, il a dit, je sais que lui, j'ai dit, il y a Dieu dans sa vie, il y a Dieu dans sa vie, il y a Dieu dans sa vie. Puis là, je ne sais pas trop reine, tu sais, mais là, as-tu présenté l'Évangile? Là? Tu demandais s'il savait. Mais lui, non, il y a une vie, lui. Puis, comprenez-vous? Là, c'est plus ça, là. Il y a un bémol, là. Puis moi, je l'ai à cœur, lui. Je l'ai à cœur, lui, là. Puis je ne veux pas qu'il pense que lui, il y a Dieu dans sa vie puis qu'il n'y a plus de problème, là. Non. Il faut que le message d'Évangile soit présenté tôt ou tard. Mais comprenez-vous? Ça, c'est important, ça. Autre chose. Nos mauvaises influences. Ne pas oublier, je fais un rappel aussi, ne pas oublier nos ennemis principaux. Le malin et tous ses anges, le monde qui ne vit pas selon Dieu, les valeurs du monde qui ne sont pas selon Dieu, puis on le voit, la moralité, ça descend de plus en plus, et le plus grand ennemi oublié, la chair. Qui la chair, elle fit avec le monde, avec le diable, mais souvent, là, mais la chair. Et on doit se méfier de notre chair. C'est notre ennemi numéro un à l'intérieur, qui veut nous entraîner, nous dévier, nous entremêler, etc. Donc, on doit veiller à ça. Et c'est pour ça que ces textes-là étaient là. Pour avertir les croyants. Ce n'est pas juste pour avertir les non-croyants, pour avertir les croyants. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est ceci. À l'Église que je suis, au début de l'année, le pasteur principal, il a pris un thème, puis il l'a développé, puis on le véhicule un peu partout durant l'année, là. Puis dit, le thème, c'est « Bâtissons ensemble ». C'est un tour de force à faire ça à l'Église qu'on est, parce qu'on est, quoi Marie, hein, quinzaine de nations différentes dans l'Église. Puis c'est un tour de force de faire une unité avec ça, de vivre ensemble, de travailler ensemble et de bâtir ensemble l'Église de Dieu. C'est tout un tour de force, puis c'est bien, puis c'est bon. Moi, j'aime ce défi-là, même si c'est dur. J'aime ce défi-là, puis je me dis combien ce cœur du Seigneur doit se réjouir de voir ça en action. Wow! Super! Ça nous rappelle que la Bible nous dit que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Enfin, c'est Dieu qui bâtit derrière ça, pour bâtir son Église. Mais il y a un autre texte qui nous dit aussi « On est ouvrier avec Dieu pour bâtir son Église ». Puis là, ben, je suis pas trop bon en dessin, mais j'ai fait ça. C'est comme si c'est Dieu, puis lui, il ramasse des pierres, puis il convertit, puis il bâtit son Église. Bon. Fermez vos yeux. Allez-vous vous en rappeler? Si vous en rappelez, cette mission accomplie, c'est Dieu qui bâtit. Puis nous, on participe à bâtir cette Église-là. C'est lui qui convertit les gens. La magie de la conversion, c'est lui, là, pas nous. Mais on participe à ça. Ça marche? Oui.
C'est un Corinthiens quoi?
Celle-là? T'as un peu tantôt, là. Ah! 1 Corinthiens 3:9. Le verset est plus long, là. J'ai pris le centre du verset, là. Les valeurs du message. Et voilà ce que j'aimerais vous parler aussi. OK, on y va avec ça. Le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Qu'est-ce que le message? Quelles sont les valeurs du message de l'Évangile? Le message de l'Évangile est unique. Il n'y a rien de comparable au message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est exceptionnel dans toute la Bible. Il est exceptionnel, il n'y a rien de comparable. Il n'y a aucune religion qui est comparée au message de l'Évangile. Il n'y a aucune philosophie qui peut être comparée au message de l'Évangile. Il n'y a aucune secte qui peut être comparée au message de l'Évangile. C'est exceptionnel. Rien n'est comparable avec ça. On pourrait les décortiquer. Puis moi, souvent, à la table des fermiers quasi, quand les gens arrivent d'une façon curieuse ou un peu grippés un peu, « Ah, moi, les religions, là, ah, je ne parle pas de religion. Ah, tout pareil, les religions, tu sais, tu connais ça, votre patente. » Non, tu ne connais pas ça. Ici, tu présentes quelque chose qui est complètement différent de la religion. C'est autre chose. Ben non, c'est comme une secte. Non, il n'y a pas de secte, pas de philosophie, pas de religion. Rien de comparable. Je te présente ici à la table quelque chose de complètement différent. Là, je ne réponds pas tout de suite. Là. Je les laisse mijoter. Ben, oui, donc. C'est une petite histoire que je te présente. Tu n'as jamais entendu parler d'une affaire comme ça. Je te le dis, c'est exceptionnel. Je suis très à l'aise de faire ça parce que c'est vrai. Le camp qui l'écoute, ben, oui, ben, wow, ben, c'est comme. T'as-tu parlé d'une religion? Non, je t'ai parlé de quelqu'un. Je parlais de nous. Je parlais de Dieu. Je parlais de religion. Ah! Mais c'est important de comprendre ça. Le message est le plus important de toute la Bible. Et de tout autre discours. Oui, moi, j'en ai entendu des discours. JF Kennedy, j'en ai entendu des discours de lui. Martin Luther King, j'ai entendu des discours de lui. J'ai entendu des grands prédicateurs. J'ai écouté des discours de Gandhi. Écouté des discours d'Abraham Lincoln. Et mettez-y la liste énormément. René Lévesque et bien d'autres. Des bons discours motivateurs. Puis ça nous pense à nous faire réfléchir. C'est énorme. C'est vrai. C'est bon. Rien de comparable avec le message de l'Évangile. Absolument rien de comparable avec ça. Puis c'est important que ça soit clair dans notre tête, ça. Quand on le présente aux gens, on ne présente pas, je voudrais te parler d'une patente, une affaire, donne-moi une chance de te parler de... Non, ça a une valeur incomparable. Il faut que ça soit clair dans notre tête, dans notre esprit et dans notre cœur. Quelqu'un a dit, le message de l'Évangile, c'est le cœur du cœur de Dieu. Le message de l'Évangile, c'est le cœur du cœur de Dieu. Toute la Bible part de là. La Bible n'a aucune valeur. Oui, il y a des vérités, c'est fondamental, on ne pourra jamais les enlever, mais pour l'être humain, elle n'a aucune valeur sans penser par le message de l'Évangile. C'est important de comprendre cette valeur-là. C'est un vieux message, le message de l'Évangile. C'est un vieux message, le message de l'Évangile. C'est un message qui date de 2000 ans, là. Mais c'est tout le temps le même message. Puis le message ne doit pas changer. Le message doit nous changer, puis il doit changer les personnes, mais le message ne doit pas changer. Mais on est influençable. Puis pour toutes sortes de raisons, ça peut nous influencer à un tel point qu'on va modifier le message. Pas toujours parce qu'on a conscience, mais on est des humains. C'est important de s'examiner. C'est important de se juger intérieurement. Peut-être les uns, les s'examiner comme il faut pour ne pas changer de message. J'en ai vu des gens, même un salon mortuaire, tu sais, les gens viennent de la famille, puis ils posent des questions. Puis, vous, il est avec Dieu, tu sais, c'est des chrétiens, là. Puis là, la personne, ben là, j'ai dit, René, c'était plus fort que moi, tu sais, t'as pleuré. Puis... Le message de l'Évangile, il ne change pas. Il est toujours pareil, c'est important. Pourquoi c'est important que ça ne change pas? Ne pas oublier qu'il y a une guerre spirituelle. On est influencé, la guerre spirituelle encore, le diable, ses acolytes, le monde et la chair, ça vient faire la guerre au message d'Évangile. Au Forum des Évangélistes, ils ont tapé sur le tout avec une phrase qui disait, il dit, des bonnes nouvelles, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout autour de nous autres. Des bonnes, fausses nouvelles pour l'être humain. Mais la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu, elle est la seule, l'incomparable. Puis on ne doit pas l'oublier. Puis on ne doit pas la modifier. On doit la garder, puis on doit la répandre. Pourquoi est-ce que le message de l'Évangile est fort et puissant? Le message de l'Évangile, là, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'à la base du message de l'Évangile, c'est un tout. Et dans le message de l'Évangile, il y a beaucoup de doctrines à l'intérieur. Je vous donne un exemple des doctrines qui peuvent être dedans. À l'intérieur, bien, il y a une question d'élection, il y a la régénération, l'expiation, l'appel, la régénération, la nouvelle naissance, la repentance, la foi, l'union avec Christ, la justification, l'adoption, la sanctification, la persévérance, la glorification. Tout est dans le message d'Évangile. Puis j'en passe, là. Ça, c'est compris dans le message d'Évangile. Fait quand on présente l'Évangile, c'est important de prendre conscience de la valeur et de la puissance de ce message-là. Et ne pas bifurquer à quelque part, là. Mais quand on le présente, on doit le présenter parce que c'est comme des principes, c'est comme des lois qui sont dans le message de l'Évangile, qui sont puissants et forts, qui viennent briser des choses dans la vie des personnes. Entre autres, la loi du péché. La loi du péché, si tu pêches, tu meurs, jugement, enfer. Et l'Évangile vient briser cette loi-là. Clark! Wow! C'est fort et c'est puissant. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on a entre les mains, le message de l'Évangile qui vient tout changer, chambouler la vie d'une personne. C'est exceptionnel. Mais c'est ça le message de l'Évangile. La Bible dit que c'est une puissance. Pourquoi c'est une puissance? Parce que ça vient appel à un paquet de doctrines fondamentales et puissantes qui viennent de Dieu, du royaume. Ils sont là. Nous autres, on les prend, on les présente aux gens. Quand quelqu'un le prend, paf, il ne se rend pas toujours compte de ça, là, en partant. Mais c'est une puissance qui saisit. Puis au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans la vie chrétienne, ils vont se rendre compte de toutes ces valeurs-là et cette puissance-là, au fur et à mesure. « Wow, c'est à moi, wow, c'est à moi. » Je me souviens d'avoir été à l'école du dimanche avec des adolescents, puis un adolescent qui était nouveau, il était dans la classe, puis c'était en dehors des réunions, tu sais. Pendant la carte à M. Bottu, on parlait de ça, puis il dit, quand on se convertit, ben, on obtient ça, on obtient ça, on obtient ça. Puis il était nouveau. Les autres gens étaient élevés dans la famille chrétienne, puis eux, ils étaient assis. Ouais. Puis là, au nouveau, il était sur le bout de la chaise. Ben, voyons, hein. On a tout ça quand on se convertit. Il dit, ben oui. Ben voyons donc, je ne sens pas ça, moi. Ben oui. C'est comme ça. Les autres étaient là, ils le regardaient, tu sais. Ben, hein, ouais, c'est vrai, c'est ouais. Est-ce qu'on s'émerveille encore de tout ça? Est-ce qu'on a conscience de ça quand on part pour annoncer l'Évangile? Quand on prie pour pouvoir annoncer l'Évangile? Il faut en avoir conscience. Seigneur, Seigneur, c'est ça qu'ils ont besoin. Seigneur, ça peut percuter la vie de quelqu'un. On a des exemples, on en a parlé. Ça peut se faire encore. Ça peut se faire. C'est tellement puissant le message d'Évangile. Écoutez, ça a une puissance. Quelqu'un va lire le message d'Évangile. Paf! La puissance peut agir. Quelqu'un va prêcher du haut d'une tribune avec un grand public à l'abbaye Graham. Écoute, ça peut avoir une puissance énorme en le criant. Quelqu'un va le voir d'une tribune comme si c'était une église. Message d'Évangile a la même puissance. Tu vois un petit groupe, tu vas prêcher le message d'Évangile, avoir la même puissance dans les gens. Tu vas tout seul avec une personne, le même Évangile va avoir la même puissance. Tu vas le dire tout bas, tout doucement, sur un lit d'hôpital, quelqu'un qui est en train de mourir. Si la personne le prend, elle va avoir la même puissance. Quel message fait ça? Quel message peut faire ça? C'est exceptionnel. Il n'y a rien de comparable à ça. Mais il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut en prendre conscience. Les doctrines de vie, là. Pas oublier que cette puissance-là est tellement forte qu'elle peut aussi donner la vie. Donner une nouvelle vie que les gens n'ont pas. Non seulement elle peut donner une vie, mais elle peut transformer une vie. Non seulement elle peut transformer une vie, mais elle peut transporter une vie jusque dans leur royaume. Non seulement elle peut transporter une vie, mais elle peut transporter une vie physique dans leur royaume. Pas juste dans l'esprit, là. Physiquement, avec Dieu. Puis moi, j'ai déjà dit, il y a une table avec des jeunes hommes. Ça n'a pas d'entrée qu'on te présente à la table ici, mais tu sais-tu que tu pourrais être avec Dieu au ciel? Ah ouais, on peut être avec Dieu. Oui. Puis là, j'attends un petit peu, puis là, m'a dit, tu peux être avec Dieu au ciel physiquement. Qu'est-ce qu'il dit physiquement? Tu peux l'être en esprit? Non, non, non. La Bible nous garantit. Quand il nous parle d'un chapitre complet en rapport avec ça. Physiquement, dans le ciel. Puis là, j'attends encore un petit peu. Mais physiquement, dans le ciel, avec un corps transformé, glorifié, que la Bible parle. Là, il me regarde, il recule de deux pas. Il dit, va donc, toi, c'est toutes ces promesses-là qui sont dans la Bible. Puis nous, à la table, on te parle juste de la porte d'entrée. Mais tout ça, tu peux l'avoir. Puis là, je leur dis, oublie pas, la Bible, on l'appelle comment? Un testament. Testament, si tu le lis pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a dedans. C'est un testament pour toi, c'est accessible à toi. Lis-le, tu choisiras si tu le veux ou pas, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tu peux l'avoir. Comprenez-vous de cette valeur-là qu'on peut présenter aux gens? C'est énorme. Hey, ça, c'est super, ça. Merci, mon frère. Hey, faites bien. Si jamais vous venez au kiosque, on a de l'eau. C'est bon? OK. Rien de comparable. C'est bon? Je suis tout enflammé, là, mais ça en vaut la peine. Ça. Ensuite, je passe à autre chose ici. Je voudrais vous présenter quelques principes pour faire l'évangélisation. D'accord? On pourrait en parler longuement, on pourrait aller à la liste, mais je vais vous en lancer quelques-uns pour nous aider à se rafraîchir la mémoire, ou si ce n'est pas le cas, pour nous aider à mieux faire les choses. D'accord? Voici quelques principes. Un des principes très importants, c'est qu'on ne lit pas dans les cœurs des gens. Jésus, quand il est venu, lui, il était bon. Il était Dieu. Puis la Bible nous dit qu'il n'y a pas besoin de l'enseigner qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mais nous, on ne sait pas. Fait qu'on ne doit pas prétendre. Des fois, on peut penser connaître les gens, on peut voir une personne et dire, d'après moi, lui, c'est un motard. Là, puis c'est on ne lit pas dans le cœur des gens. Puis on doit faire l'approche puis voir les âmes des gens et non pas l'apparence des gens. Ça, c'est important de comprendre ça. Présenter tout le message d'Évangile. C'est pas toujours facile de faire ça, mais on doit apprendre à présenter tout le message d'Évangile. On peut pas toujours. Peut-être des fois, on prend une partie, mais on peut pas toujours. Mais c'est important. Une des choses qu'on doit parler, c'est de quelqu'un qu'on doit parler, pas d'une religion, ni d'une église. D'abord, le message d'Évangile. Vous savez, le meilleur exemple qu'on a là, dans la Bible, c'est le bon larron sur la croix. En guillemets, le bon larron, là. Mais lui, il a pas eu le temps de d'entendre parler d'une église, il n'y a pas eu le temps d'entendre parler. C'est Jésus qui était là. Une personne, l'action, ça s'est fait. Qui est devant nous? C'est ça qu'on doit apprendre. Paul a dit, je me suis fait tout à tous. Et Paul avait la capacité, lui avait donné ça, puis il avait appris à le faire aussi, à s'adapter aux gens. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Puis je sais que c'est difficile. Peut-être que les personnes d'un certain âge, moi, m'adapter aux gens. Moi, je suis. Mais on doit travailler ça pour s'adapter. Puis moi, je vous donne un exemple. On s'est convertis, on était jeunes, en bas de 20 ans, là, plusieurs, là, puis une gang de brasseux. Là. Puis les gens qui nous ont accueillis, là, c'est des vieux. M. Belmard et compagnie, M. Robert Lafrenière, ils nous ont accueillis dans leur maison. Écoute, il y a bien des années, même plus que nous autres. T'sais. Puis ils recevaient des jeunes chez eux, puis ils accueillaient, puis ils se mettaient à notre niveau. Puis on a tiré des grandes leçons de ça. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, c'est encore pareil. T'sais. Est-ce que les gens ont de la connaissance de la Bible ou de Dieu? T'sais? C'est ça aussi qu'il faut être capable de sonder parfois. Au Forum des Évangélistes, entre autres, ils ont parlé de l'échelle de je ne sais pas trop quoi, j'ai jamais le nom. Là. C'est plus là. Il y a une échelle de connaissance des gens. Au milieu, c'est neutre. En rapport avec Dieu ou la Bible, c'est neutre. Puis en haut, de 0 à la 10, les gens connaissent beaucoup de choses de Dieu ou de la Bible. Tuk. Tu sais, quand on parle peut-être des grands catholiques, c'est plus facile là. Ils ont des valeurs qu'ils connaissent. Mais en bas de 0, là, il y a peu de connaissances. Puis quand on rencontre des gens là, on commence à la base. Là. Très, très base. Là. Fait que si on dit des beaux mots bibliques, évangéliques, ils ne comprennent pas. T'sais. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est quelqu'un qui faisait de l'évangélisation à la porte. Puis quand il est à la porte à Montréal, puis une sorte de personne qu'il rencontre là, fait qu'il arrive à deux, il cogne une porte à quatre parts, il cogne, ça ne répond pas, il y a une s'en aller, puis il s'en retournait, à un moment donné, la porte subitement rouvre. Il s'en vient d'abord, il dit oui, veux-tu vous aider? Ah, il dit, ça venait vous parler de Jésus. Ah, il dit, moi, je suis nouveau dans le coin, je ne connais pas personne. Il dit, ça. Wow! Ding, 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 ding. Il dit, oh, là, on commence bas, là. Très, très bas, là. Comment on dit? Mais c'est comme ça aujourd'hui, là. Tu vois, on attend des fermiers chrétiens, puis on le voit qu'il est jeune, là. Aucune connaissance. Mais en même temps, ils n'ont aucun préjugé, eux autres. Ils sont très ouverts. Écoute, c'est une vraie éponge. Aucun préjugé. Oui?
Vous êtes comme les Jéhovah.
C'est-à-dire?
Mais vous allez de porte en porte.
Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen de le faire. Mais il y a bien d'autres moyens. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec ça. Là. Les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas ce message-là. Il faut que tu fasses.
Ouais, c'est
que
ça. Moi, je veux dire, Jéhovah, c'est que c'est ça. C'est qu'eux autres qui vont de porte en porte.
Mais ça,
c'est les seuls qui font ça.
Oui, mais on peut le faire avec l'Évangile. Moi, j'ai déjà fait. Puis, quelque chose qu'on faisait avant la pandémie dans le coin, on a couvert tout un secteur de Chicoutimi à rapport avec ça. Puis, je voudrais qu'on recommence. Je trouve une parenthèse avec Claude Tremblay, entre autres. Là. Mais en tout cas, je ferme la parenthèse, mais c'est un bon moyen. La prévention suffisante qu'on le faisait sur la base de ça. Là. Je referme la parenthèse. Mais
c'est pas ça, les fermiers.
Non, c'est pas ça, les fermiers chrétiens. Mais c'est important, toutes ces valeurs-là du message de l'Évangile. L'effet du message, c'est une garantie, c'est une promesse dans la Bible, que le message de l'Évangile va faire un effet dans la vie des personnes. Que ce soit positif ou négatif, mais ça va avoir un effet. Que ce soit un effet tout de suite, immédiat, un peu plus loin ou beaucoup plus tard, mais ça va avoir un effet. Mais si on le sème, Dieu va pouvoir travailler. Et la semence du message de l'Évangile, la semence de la bonne nouvelle, je le dis, puis j'ai besoin de me le redire, n'est pas un message comme n'importe quelle autre semence, n'importe quelle autre bonne nouvelle, n'importe quel autre discours. Non! C'est une semence qui vient de Dieu et ça a la puissance de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Fait quand on réussit à semer, même si on ne voit pas de résultat, puis même si la personne n'a rien que reçu, on s'en va, on prie, puis Seigneur, là, il va pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que la semence est rentrée dans la personne. Puis il m'est arrivé, entre autres, de le faire, moi, avec des témoins de Jéhovah, tu sais. Puis j'aurais demandé, laisse-moi te présenter, moi, ma bonne nouvelle. Puis je lui ai présenté, puis j'ai dit, tu la comprends-tu? Répète-moi-la. Il a répété, non, tu n'as pas compris. Puis j'ai fait répéter jusqu'à temps qu'il la comprenne comme il faut. Et quand il a eu compris, il m'a dit, j'y crois pas, je te demande pas d'y croire, je te demande de la comprendre. Lui, il ne savait pas. Moi, je savais que maintenant qu'il a compris, il a de la redire, Dieu va travailler dans sa vie. Mission accomplie. En fait, il a pu s'en aller de chez nous. Prier pour qu'il soit touché. Tu sais, parfois, on prie, Seigneur, prie, Seigneur, ben, touche-le. Ouais, mais c'est passé, ça. Seigneur dit, envoyez, qu'il envoie des... prier pour qu'ils envoient des ouvriers dans la moisson. C'est pas tout qu'il soit touché. Tu sais, le discours de Pierre, on le voit tantôt, mais le discours de Pierre, tu sais, au tout début, son premier discours, il eurent le cœur vivement touché. Puis écoute, le discours de Pierre, il n'a pas été de main morte. Il t'a attendu qu'il rentrait dedans. Là. Bang, 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 c'était haut, c'était fort. Puis là, le cœur vivement touché. Ah, ça convertit! Non. Il a rajouté quelque chose. Repentez-vous. Et là, il venait de compléter. Paf, paf, paf. Puis une gang qui se sont convertis. Mais c'est important, tout le message de l'Évangile. On peut prier pour un réveil, mais on doit prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis des ouvriers, ce n'est pas juste des évangéliques. C'est pas juste des évangélistes. C'est des bons, les Billy Graham, Alain Chouaquier, des gros, des vrais, là, des vrais. Eux autres, ils vont faire la job. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans votre quartier, je ne suis pas dans votre coin, votre voisinage, votre famille, votre lieu de travail, à l'école. Je ne côtoie pas ça. Vous, vous êtes là. Votre culture, ma culture ou d'autres, vous côtoyez une catégorie de gens, puis Dieu veut que vous rejoigniez ces catégories-là, que moi, je ne peux pas, que lui, il ne peut pas, qu'un autre ne peut pas à la place. Puis il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est là pour ça, vous êtes là pour ça. Et j'aimerais peut-être vous parler d'un point, entre autres, en rapport avec les couleurs, et c'est l'aspect du message d'Évangile. Je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse saisir et comprendre, d'accord? Les approches de l'Évangile. Voilà. Je vous fais un petit dessin pour qu'on puisse nous aider à comprendre. Quand on veut parler de l'Évangile, parfois, il y a toutes sortes de sujets qu'on peut parler autour pour nous emmener vers le message de l'Évangile. On est où, j'ose avec quelqu'un au milieu de travail, tu sais, on va parler de toutes sortes d'affaires. Tu sais, on va parler de maladies, d'argent, de choix, de quotidien, d'injustice, les nouvelles, la politique, tu sais, de guerre, toutes sortes d'affaires, tu sais, puis on a marché, mais ça en avance vers le message de l'Évangile. Et peut-être, parfois, on passe par deux ou trois sujets pour en arriver vers le message de l'Évangile. C'est comme ça l'exercice qu'on peut faire. Tu sais. Mais parfois, il y a un autre moyen qui se présente, et l'autre moyen, l'autre approche, c'est celle-ci. Puis moi, ça m'est déjà arrivé parfois. Entre autres, table des fermiers chrétiens, c'était joueur, on tombe sur le message directement. Mais dans un autre milieu, entre autres, on a le message d'Évangile. Il faut comprendre le casse-tête du message d'Évangile. Puis quelqu'un va arriver me poser une question, exemple. Quelqu'un dit, toi, René, il dit, tu crois à l'enfer, toi? Il dit, oui. Bon, prends-moi donc de l'enfer. Moi, il parlait de l'enfer. Mais dans ma tête, il faut que je comprenne bien, là. Ça, c'est compris dans le message d'Évangile. Mais où est-ce que je me situe quand je parle d'enfer? Là, il n'a pas tout entendu le message d'Évangile, même si je parle d'enfer, là. Comprenez-vous? Enfin, si je reviens dans la conversation plus loin, plus tard, je dis, hey, l'autre fois, on a parlé d'un sujet, mais là, il y a des affaires que je n'ai pas fini de te dire. Il y a des choses que tu devrais savoir plus de l'enfer. Ah ouais, c'est quoi? Mais il faut savoir ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qui lui manque dans sa compréhension pour qu'il puisse saisir? Comprenez-vous? Parfois, c'est spontané, puis c'est court, cool, puis on a tout de quoi, ben, il en manque un bout, là, Seigneur, prépare une autre occasion, là. Mais il faut comprendre quel bout qui manque. C'est incompréhensible, c'est important, là. Je fais des dessins pour nous dire, moi, je suis très visuel, là, puis ça m'aide à saisir et à comprendre, t'sais. Quelques principes, je les ai mentionnés, entre autres. Une des choses très importantes dans le message d'Évangile et dans les cinq couleurs, entre autres, c'est la couleur noire ou la couleur sombre qu'on l'appelle. Puis on dit la couleur sombre pour ne pas faire allusion à la couleur de la peau. D'accord? Pour les gens, pour ne pas froisser et insulter les gens. Puis la couleur sombre qui nous parle plutôt de l'état d'âme intérieur. T'sais. Mais dire aux gens, en tant que nous autres, là, des croyants, dire aux gens que c'est des pécheurs, c'est pas facile à digérer. On s'entend? Dans tout le message d'Évangile, généralement, c'est ça qui va bugger. Il y a des exceptions à la règle. Moi, j'ai des gens qui ont arrivé à la table, qui ont 60, 70 ans. Quand on arrivait à la couleur sombre, là, je parle de ça, notre état de vie, quel état qu'on est, sombre, tu sais, on fait des choses mal, etc. Puis là, des fois, il y a un monsieur, souvent, écoute, j'ai arrivé 4-5 fois, il regarde ça, il dit, moi, petit gars, il dit, peinture-moi tout ça noir, il dit, ça, c'est moi, ça. Oh! Lui, il vient de comprendre quelque chose. Mais très souvent, c'est l'autre. Ah, ben moi, bon gars, bonne fille, ah, elle ne fera pas de péché, oh, Dieu n'a plus de péché, ah, là, ça, c'est dur à digérer. Comprenez-vous? C'est ça qui est dur à faire avaler aux gens. T'sais. Mais c'est indispensable. Ils doivent l'entendre, le comprendre, le recevoir pour se repentir. Autrement, quand on arrive avec le reste de la bonne nouvelle, ça vaut quoi? Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui m'ont dit, ah, je suis converti, on était une réunion, puis c'était bon, voilà, on va pleurer, puis, ah, je suis sauvé, t'sais. Ah, ouais, puis. Puis, à quel moment, là, qu'il y a eu le pardon des péchés, ça? C'est pas, on va pas parler de ça. Oh! Ça va pas bien, hein? Là, tu patines, tu vas pas défaire tout ce qui a été fait, mais en même temps, tu dis, on va essayer de rattraper pour prendre ce qui n'a pas été fait, là, tu sais, là. C'est délicat, hein? Mais le message d'Évangile doit être complet. Il doit y avoir une repentance. Puis la Bible et le Nouveau Testament parlent abondamment de la repentance. Puis là, j'ai beaucoup de versets en rapport avec ça, j'en mentionne quelques-uns, là, mais... Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste, c'était son rôle. Prêchait la repentance pour les préparer à la venue de Jésus. La repentance, se repentir de quoi? La définition de la repentance, tu t'en vas par là, puis tu décides au champ d'idées, tu t'en vas par là. Il y avait ça qui dit ça. T'sais. Il y a un mec qui dit, ah, toi, tu allais faire... Ta, ta, ta. Ah, il dit non. Pendant qu'il se repentit, puis il dit, ah, il dit oui. C'est ça, la repentance. Puis c'est de reconnaître dans notre vie, moi, je m'en vais par là. Vie de pécheur, ben, ça va mal. Puis là, je vais aller là. Je regrette, je ne veux plus, je vais aller là. Alors, voilà la bonne nouvelle. Tu peux changer, puis tu n'es pas capable de changer. Mais, gars, la bonne nouvelle, Dieu va te donner la capacité. Il te pardonne, il te donne la capacité de... Mais tu dois être repentant. La repentance doit être là, c'est très important. Même si on n'utilise pas toujours le mot repentance. On s'entend? Il n'était pas là, ce mot-là, ça a quoi avec le bon larron. Mais c'était invisible que lui, il savait ce qui se faisait, ça a quoi. Pécheur, puis méritait. Oui? Exact, c'est bon. C'est bon, ça, Richard. Mais comprenez, la repentance est très importante. Un autre texte, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu et repentez-vous. Donc, même pour Jésus, la repentance était très importante. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient à raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrificateurs. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Ça, on pourrait l'appliquer là, dans la vie. Tu sais, il y a des gens, ils sont morts d'un accident d'autobus, ils taquins, ils sont morts toute la gang. Ou une gang de joueurs sont morts toute la gang. T'sais. Ou lui, il a été tiré par un gun. T'sais. Mais lui, il courait après, il y a une vie. Tu sais, dans notre tête, puis les gens, peut-être qu'il méritait, puis c'est un grand pécheur, c'est mais Jésus va répondre assez clairement là-dessus. Puis ensuite, il va rajouter.
Le sacrifice, pas sacrificateur.
Ouais. Ça, il a mal lu, excusez-moi. Il a mal lu. Des fois, je dis mal. Là. Jésus, voilà ce qu'il va répondre. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Fait, il a comme changé le focus de place. Puis il voulait tellement que le focus change de place que Jésus va rajouter un autre événement qui s'est passé. Il va rajouter ceci. Ou bien les 18 personnes, c'est Jésus qui parle, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils fussent de plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Les gens étaient au courant de cet événement-là. Ils savaient que tous ces gens-là avaient été tués. Là. Est-ce que c'est des plus grands coupables? Est-ce que des pourraient être morts de cette façon-là? Mais Jésus va reprendre la même phrase. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous prierez tous également. Voilà pourquoi c'est important d'annoncer le message de l'Évangile. Voilà, c'est important pour que les gens, peu importe la façon qu'ils vont mourir, peu importe la manière, maladie, accident, subito, dramatique, meurtre, peu importe. Moi, je regarde les gars là-bas, là, qui ont le bord. Là. L'Évangile. Puis, peut-être qu'ils ne s'en sortiront pas de vivant. Là. L'Évangile, s'ils saisissent l'Évangile au moins avant de recevoir une balle, une bombe, ou une ci, une ça, le message de l'Évangile, c'est primordial. Mais tout le message d'Évangile. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait le Seigneur Jésus-Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le discours à Pierre. Hein? Et vous leur lirez le texte, là, puis ça brasse. T'sais. Vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Puis on pourrait dire, hey, « ils sont convertis, ils sont touchés, ils sont en larmes, ils sont convertis. » Mais non, il va rajouter. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. » J'arrête là. Mais la repentance, vous devez vous repentir. Je peux te parler du pardon de Dieu, mais tu vois, as-tu envie de changer de vie? Ah, je suis prêt, mais je ne veux pas changer de vie. Ouh. C'est pas ça l'Évangile. Là. Puis la puissance de l'Évangile n'aura pas d'effet dans la vie de quelqu'un qui est comme ça. Là. C'est important, là.
Si tu me permets, oui. Ce que j'ai perçu comme toi, que les gens sont prêts à reconnaître qu'ils sont pécheurs, sont prêts à accepter le pardon de Dieu, et là, ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais il n'y a pas aucune volonté de changer de vie.
Exact.
Et c'est ça la repentance. Mm. La vraie repentance, c'est ça.
Ouais.
C'est pas juste de reconnaître qu'on est pécheur, c'est pas juste de regretter que j'ai péché, c'est de désirer changer de direction.
Exact, la direction.
Arrêter d'aller dans cette direction-là et changer aller vers Dieu. Sans ça, là, la personne peut se faire désaccroire,
être
sauvée. Et même nous, on peut faire croire à la personne qu'elle est sauvée, ouais, alors qu'elle ne l'est pas.
Ouais. Ce qu'on appelle des faux raisonnements. Sur le salut, c'est primordial. Là, les faux raisonnements sur le salut, c'est très dangereux. Là, c'est important. T'sais. Oui? Nouvelle vie. C'est ce qu'on apprend. Si on a deux vies, puis on doit dire non à une, puis dire oui, puis s'affectionner de plus en plus de la nouvelle vie pour qu'elle prenne de la force de plus en plus sur l'ancienne vie. C'est important. T'sais. Puis là, à la fin, ben là, Julie est là. Et Agrippa dit à Paul, Paul a argumenté. Paul, il se faisait tout à tous. T'sais. Il prenait avec des gens pas instruits, des gens instruits, puis là, il y avait des rois devant lui, il était en procès, tout ça, puis il argumente, puis la Bible nous dit certaines choses qu'il a dit, mais il n'a pas tout dit. Mais écoute, il était quand même assez loin, à tel point il n'agrippa, il a dit, « Hey, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Ouh! C'est quelque chose, hein? L'histoire ne raconte pas, il ne dit pas qu'est-ce qui est devenu d'Agrippa, tu sais, mais sauf que, écoute, ça allait être loin, là. Il était comme... Puis il en avait entendu parler avant l'apôtre Paul, là. C'est de quoi, là? Je laisse là-dessus. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter les cinq couleurs. Je peux-tu faire ça? On est des personnes vieillissantes. Nous autres, on le fait parfois avec nos colliers, on le fait avec des bâtons de marche, on fait des petits bâtons à hockey. Puis j'aimerais ça vous présenter les cinq couleurs. Pour être sûr que vous le voyez. ça devrait être bon. C'est bon? On a des petits bâtons de marche, comme ça, là. Comme ça, souvent, j'ai dit aux gens, utilisez ça, parce que les gens, les couleurs sont très visibles, c'est plus facile de transférer. Mais là, vu qu'il y a des gens qui ont des lunettes pas mal, ils vont prendre celui-là. D'accord? Là, je vais vous le présenter, puis... oui, vas-y.
Ça peut passer à la dose, la rondelle dans le but. Qui la game? C'est à nous autres. Ouais.
Puis là, vous réécouterez, vous avez peut-être pris des notes, puis sinon vous réécouterez l'enregistrement, mais j'ai parlé des principes pour annoncer l'Évangile. Puis un des principes, peut-être que j'ai sauté tantôt, c'est notre langage évangélique. C'est important que, je dis souvent aux gens, que puis les gens qui ont converti depuis peu de temps, ou beaucoup de temps, tu sais, la connaissance de la Bible nous rentre dedans, puis on apprend la définition des mots, tu sais, puis souvent quand on va présenter l'Évangile, on voit des beaux grands mots, très bibliques, très corrects, tu sais, mais les gens de la rue, là, ils ne connaissent pas ces mots-là. Peut-être que les gens plus religieux vont les connaître, vont s'en rappeler, mais les gens de la rue, puis la jeunesse, eux, là, c'est zéro gun bar. Parce que c'est important, moi, je dois dire aux gens, puis je dois enseigner les gens, puis les former pour qu'ils disent des mots qui sont simples, qu'ils comprennent l'histoire des cinq couleurs. Sans ça, les gens, ils débarquent, puis ils ne comprennent pas. Je leur dis, si tu fais ça très, très simple pour que la personne qui ne connaît pas les choses de Dieu comprenne, bien, ceux qui connaissent les choses de Dieu, ils vont te suivre, ils vont te comprendre. Ça, c'est très important. Je vais vous le faire, puis à travers ça, moi, ce que j'aime avec l'Association des fermiers chrétiens puis avec le système des cinq couleurs, c'est qu'on passe, sans le dire, on passe à travers les doctrines du message de l'Évangile. Presque d'un bout à l'autre. On fait ça rapidement. On ne leur dit pas, hey, je te fais cinq doctrines, je te dis, là, faire trois doctrines. C'est pas ça qu'on dit, là, tu sais, là. Mais on le fait simplement avec un langage, mais on traverse ça avec un langage très, très simple. Moi, je dis un langage québécois, tu sais. Puis, tu sais, ils ont dit, je vous donne un exemple qui fait comprendre aux gens. Tu sais, il y a une expression qui dit, ils ont été lavés dans le sang de Christ, tu sais. Là, dis-tu pas ça à la table, là, parce que là, ça ira pas bien, là. Tu sais, un jeune qui voit ça, là, une jeune fille, on va partir en courant, on va appeler la police, on va dire, hey, ils baignent des gens dans le sang, là. Quand la Bible a dit ça, là, c'est parce que quelqu'un est mort pour nous autres. Ça a une définition, une expression, c'est une expression biblique. Nous autres, on devient chrétien, puis on avance, on comprend ça. Mais dans la rue, ils ne comprennent pas ça. Il faut être capable de comprendre un langage très, très simple. Moi, il y a des mots que, au fur et à mesure que les gens le font, ils disent ça, enlève-moi ça, change-moi ça. Ça, enlève-moi ça, change-moi ça pour autre chose. Puis les gens vont te suivre, puis les gens vont te comprendre. T'sais. Puis les gens écoutent, c'est surprenant. Premièrement, les gens arrivent à la table, il y a une pancarte gratuite. Quand on leur dit, ils posent la question, si tu es vraiment gratuit, vous donnez des choses. Oh, oui, c'est gratuit. Pour faire des blagues, des fois, il y a des personnes. C'est quasiment comme Noël. Il n'y a pas de neige, mais c'est comme Noël. Sauf que vous choisissez votre cadeau. Mais vous choisissez un cadeau partout. Checkez ça à la table, c'est plein de cadeaux. Des colliers, des brossettes, des stylos, des bâtons de hockey, bâtons de marche. Choisissez un cadeau n'importe quel. Si vous remarquez une chose, sur tous les objets, il y a cinq couleurs. Les cinq couleurs racontent une histoire qui explique pourquoi on donne un cadeau gratuit. Si vous me permettez, je pourrais faire les cinq couleurs, l'histoire des cinq couleurs. Vous allez comprendre pourquoi on donne un cadeau gratuit. C'est rare, la plupart des personnes vont dire oui. Bon, ils hésitent un peu, puis à un moment donné, ils choisissent, puis après, bon, c'est quoi ton histoire? Fait qu'on fait l'histoire. Fait que l'histoire est comme ceci. Première couleur, ça commence avec le A ou la couleur jaune, qui représente le ciel, l'endroit où ce que Dieu vit. C'est un endroit merveilleux, un endroit parfait. À cet endroit-là, il n'y a pas d'imperfection comme injustice, abus, mensonge. Il n'y a pas ça, là. Dans le ciel, ce que Dieu vit, c'est la vérité, la justice, l'honnêteté, l'amour, la bonté. Et c'est l'endroit où ce que Dieu vit, puis il voudrait un jour qu'on aille le rejoindre, cet endroit-là. Tout le monde aimerait aller à un endroit de même. Deuxième couleur, la couleur sombre. Ça représente les choses mal qu'on a faites dans notre vie. Des petites, des moyennes, des plus grandes. En pensée, en parole ou en action. Et à cause de ces choses-là, ça nous empêche de rentrer dans le ciel. Si le ciel est parfait, ce qui rentre dans le ciel doit nécessairement être parfait. Sans ça, on ne pourra plus appeler ça le ciel. Donc, là, on a un problème. Ça nous prend une solution. Et la solution, on l'a avec la couleur rouge, qui représente l'amour de Dieu, qu'il a eu à notre égard. Et cet amour-là, il l'a exprimé d'une façon particulière. Non seulement il n'a pas juste dit qu'il nous aimait, il n'a pas juste écrit dans un livre qu'il nous aimait, mais il l'a fait en envoyant son propre fils dans une action incomparable, en envoyant son fils dans un corps humain sur terre, Jésus, et lui, il a accepté d'aller mourir sur une croix pour payer à notre place pour nos fautes et choses mal qu'on a faites. Le seul qui a la capacité de faire ça, puis je suis pas intelligent, moi, je n'ai pas la capacité de payer pour vos fautes, vous n'avez pas la capacité de faire ça pour moi. Jésus était capable. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu et homme en même temps. Si on croit que Jésus a fait ça pour nous personnellement et qu'on lui demande pardon, non seulement il va répondre, il va tout nous pardonner. Il va nous nettoyer. Il va nous transférer sa justice parfaite. Et ça, ça va nous permettre de rentrer au ciel. Pas parce qu'on va l'avoir gagné, parce qu'un autre va avoir payé à notre place pour qu'on puisse avoir accès au ciel gratuit. On continue. En attendant d'aller au ciel, la couleur verte, comme les fermiers qui prennent soin des plantes, qui grandissent, sont vertes et en bonne santé, de la même façon, la foi que Dieu va avoir déposée dans notre cœur lorsqu'on va avoir reçu le pardon, alors là, Dieu va pouvoir la faire grandir, cette foi-là, de plus en plus dans une relation directement avec Dieu, ce qui est différent d'une religion. Une religion, c'est un cadre, des règles à suivre, mais Dieu veut plus que ça. Il veut autre chose, il veut une relation personnelle. Et quand on a été pardonné, c'est possible, oui, de l'avoir et de la développer, cette relation-là, avec Dieu. Trois moyens principaux. Premièrement, on va pouvoir s'adresser à Dieu personnellement, directement. On appelle ça la prière. Et Dieu va être passionné à nous écouter. À l'inverse, une relation, Dieu veut s'adresser à nous et il le fait avec une lettre qu'il nous a écrite. La Bible qu'on appelle. Dans ce livre-là, dans cette lettre-là, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu pour nous autres. Chaque fois qu'on la rouvre, c'est comme si c'était une lettre que Dieu nous a écrite. Et le troisième moyen, c'est quand on va croiser des gens qui ont reçu ce même pardon-là, ensemble, on va apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'un jour on aille le rejoindre au ciel. Conclusion. Le ciel est gratuit parce que quelqu'un d'autre peut payer à notre place pour avoir accès gratuitement au ciel. Comprenez-vous? J'aurais pu appuyer tous des mots, sanctification, péché, enfer, toutes sortes de mots que j'aurais pu utiliser. Je ne l'ai pas fait. J'ai changé mon langage pour que les gens me suivent. Moi aussi, ma foi, je diminue. Ma femme, elle le fait beaucoup plus rapidement que ça, c'est différent. Selon la personnalité, les caractères, à leur sauce des personnes, ils apprennent au fur et à mesure, mais ils s'adaptent. Ils s'adaptent, puis ils le font. Puis moi, je vous dis, derrière, quand je vois des chrétiens, là, je vois des miracles. Des miracles. Des personnes, là, écoute, quand on fait un petit briefing en arrière de la tente, des fois, les gens, ils ont le goût de vomir. Là, là quand ils arrivent en avant de la table, je ne mets pas de pression. Tu embarques en arrière de la table. Regarde les gens agir, mets-toi à l'aise, t'embarques. Puis là, ils embarquent. Puis là, ils font des erreurs un peu, on corrige un petit peu, ils en fur et à mesure. Puis à la fin de la journée, là, écoute, c'est des gens transformés. Ils sont. Hein?
C'est votre approche
gratuite. Gratuit, ça c'est sûr. Là, c'est gratuit. Fait que les gens viennent à toi. Fait que c'est direct. On embarque tout de suite le message d'Évangile. T'sais. Puis les gens transformés. Moi, j'ai vu des gens à la fin d'une journée, là, écoute, ils n'étaient plus en arrière de la table, ils étaient en avant de la table, puis ils apostrophaient les gens, ils jasaient les gens, ils s'adaptaient, les gens de couleur d'un autre pays, les riches, les pauvres, ils étaient à l'aise. Écoute, au début, il y avait le goût de vomir en arrière de la tête, tu sais. Ils étaient partis. Puis moi, j'aime ça avoir toutes les catégories d'âge. Plus âgés, mais j'aime ça avoir des jeunes aussi. Parce que des personnes âgées, monsieur tout le monde, quand ils voient des jeunes présenter leur foi comme ça, là, écoute, ils sont bouleversés. Puis moi, j'ai vu des gens, ils disent, waouh, moi, ça, mon petit-fils, il dit, il y a une foi comme ça, il dit, hey, lui, c'est ce qui s'en va, là, hey, c'est clair comme d'eau de roche. Puis, ben, voyons donc, j'ai fait longtemps pas vu ça. Un jeune de 19 ans, des fois 16 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont derrière la table, présentent l'Évangile, ça a un impact que moi, j'ai pas. C'est comme ça.
À quel moment tu parles de la repentance?
Bien, en réalité, la repentance, je ne la signale pas, tu sais, mais si on accepte ça, alors là, il va répondre ça. Pardonner. Fait que là, la repentance, elle est comme entre deux, là, tu sais, là. Sans employer le mot, elle est là, tu sais. Ouais, puis tout dépend aussi. Dans la conversation, on peut aller plus loin ou moins loin. Mais généralement, les gens vont partir avec un cadeau, puis vont partir avec un pamphlet. Et le pamphlet qu'on leur remet, moi, je leur dis, c'est pas un pamphlet, je leur dis, c'est un aide-mémoire. Je roule le papier, oui.
Mais tu le dis, si tu demandes pardon pour tes
si tu demandes pardon.
C'est pas une formule magique si on accepte le sacrifice de Jésus. Ouais.
Ça, moi, je m'en dis, là, il va répondre, tu sais. Les gens, à chaque étape, tu sais, il va répondre. Il va hein, répondre, oui. Parce que là, paye à notre place. Tu sais, l'idée principale, quand je dis que c'est différent de toute forme de religion, c'est le fait que c'est quelqu'un d'autre qui paye à notre place. Puis ça, je pointe deux fois là-dessus, moi. Il n'y a pas une religion qui fait ça, il n'y a pas une philosophie. Tu sais, les sectes, il faut que tu t'améliores, c'est par des œuvres, par une vie, par toi, vie, par canicelle. L'Évangile, c'est pas ça. Toi, tu es en faillite totale. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Puis pas lui. Non, seul Jésus. Exceptionnel. Moi, j'ai vu un arabe à la table. Il dit, ouais, c'est autant qu'on a la foi. Tu sais, on a toute la foi. Il dit, non, ça ne marche pas. Ben non, c'est autant qu'on a la foi. C'est toi, moi. Non, ça ne marche pas. Et, pourquoi tu dis ça? Ben, ça dépend de quoi qu'on a la foi. Tu n'as pas entendu le message? Ben, tu vois, oui. Tu m'as dans leur feuille. J'ai refait. Mais c'est quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas capable. Je suis en faillite. Ben, bon, ouais, la foi que ça voudra. Je ne suis pas capable. Pas grave de payer ma dette. Ça prend quelqu'un d'autre. Le seul qui peut le faire. Toi, tu peux le faire. Un autre peut le faire. Non. Jésus seul peut le faire. Là, il n'a de comprendre. C'était peut-être la deuxième fois, mais là, j'avais mis du poids, on était tout seul. Tu sais, c'était un gars de kiosque, il était venu à mon kiosque, puis on jasait, puis j'ai mis du poids dessus. Mais comprenez-vous, on dit bien simplement, les mots simples, là, mais ça vient percuter les gens. Puis je vous donne un autre chiffre, entre autres. Là. Aujourd'hui, là, je vous le dis, là, 35 ans et moins, eux, ils n'ont aucun préjugé sur la religion, la Bible. Ces jeunes-là, là, tu leur donnes un Nouveau Testament dans les mains, tout de suite, ils le rouvrent, ils commencent à le lire. On aime donner les Gédéons. Gédéon a une table de matière, de thèmes et de sujets. J'ai eu rouge, j'ai eu monde, garde dedans, là, les thèmes, les sujets, puis c'est facile, les gars, ils disent la page, ce que c'est. Hein? C'est un livre, ils parlent de tout ça, le suicide, le ci, le ça, tout dedans, point dedans. Souvent, ils sortaient à Saint-Tite, moi, ils sortaient du kiosque, puis ils demandaient, puis ça n'a pas été trop dur? Non, ça a bien été. Ils avaient tout dans les mains, les jeunes, puis ils commencent à le lire. Ben voyons donc, ça. Les personnes de 50 ans, 60 ans, des fois, ils l'avaient appris. Là, quand ils sortaient, ils étaient en dessous du bras. Ils cachaient un petit peu, ça, dans les sacs, tu sais. Mais ils l'avaient. Ils vont le relire à la maison. Dans le pamphlet, l'histoire que j'ai racontée, elle est le résumé. Et je leur dis, gars, à chaque étape, il y a une référence dans la Bible. Si tu as une Bible à la maison, enlève la poussière dessus, va-les dedans. T'as-tu une Bible? Non, elle n'est pas. Tu voudrais-tu avoir un deuxième cadeau? Moi, tu l'offrir un cadeau. Au Nouveau Testament, si tu me dis tu vas le lire, c'est beau, si tu dis tu vas le jeter, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Puis souvent, ils vont partir, ils vont le prendre. Puis là, on peut même donner une petite carte. Ils scannent sur le téléphone, ils ont la Bible dans le téléphone. Plusieurs traductions. Un questionnaire directement, les choses essentielles de la vie. Wow! Ting, 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 ting. On va aussi loin qu'ils nous permettent d'aller. Je m'arrête là, mot de prière, d'accord? Seigneur, 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 réchauffe nos cœurs, réchauffe le zèle pour cela, Seigneur, et rappelle-nous, rappelle-nous. Pardon, Seigneur, qu'on soit si oublieux, pardon notre manque de connaissance, mais on veut que tu nous aides, qu'on se rappelle d'abord de où est-ce qu'on est venu, quand tu as croisé notre vie, qu'est-ce qu'on était aussi, qu'est-ce qu'on est devenu, en train de devenir. Et aide-nous à se rappeler des jours, des gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, eux, Seigneur. Que le message de l'Évangile a de la valeur pour eux aussi. Donne-nous cette force, ce courage par le Saint-Esprit que tu as placé en nous pour cela. On en a besoin, Seigneur. On est tous différents, on a tous des caractères différents, des personnalités différentes, gênés, pas gênés. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, 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 et utilise-nous dans ta grâce. Merci, merci Seigneur encore pour ton message, pour ton Fils sur la croix, etc., etc. Et bénis tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.